BDO.
J'ai besoin de comprendre le monde qui m'entoure et j'ai besoin d'essayer d'apporter des solutions aux problèmes que je vois. La qualité d'un leader, c'est de savoir bien s'entourer. Ne pensez pas que ne pas faire une licorne est un échec entrepreneurial. On n'est jamais aussi bon dans le pro que quand on nous demande justement d'être qui on est.
Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Loïc Souberan, le fondateur visionnaire et CEO de Swile. Swile est une licorne française qui propose une plateforme qui réunit au même endroit l'ensemble des avantages salariés, titres resto, titres cadeaux, titres mobilité, la gestion des déplacements professionnels ainsi que des solutions permettant de faciliter les interactions au travail, outils de sondage, enquête, cagnotte. C'est donc le fondateur d'une licorne que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Salut Loïc.
Salut Arnaud.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça faisait un petit moment que j'attendais qu'on fasse cet épisode. Je suis assez admiratif de ce que tu as fait. Non pas juste d'avoir fondé Swile, mais on en parlera. C'est tout ton parcours d'entrepreneur. Donc voilà, je suis très honoré. Peut-être pour commencer, donc t'es né à Montpellier, originaire du
Exactement.
Sud.
Exactement.
Famille mi-bretonne.
On entendrait avec l'accent peut-être.
Ouais, je pense. Hein. Ce serait douté. Famille mi-bretonne, mi-ardéchoise. Des entrepreneurs dans ta famille?
Pas du tout. Je suis un peu le mouton noir de la famille, puisque 100% de ma famille est dans le domaine de la santé. Ma maman est médecin urgentiste, mon papa est gynécologue, mon frère est kiné, ma sœur est sage-femme, ma tante est aide-soignante, mon oncle est dentiste. Voilà, donc non.
Ils ont bien vécu que
alors, ils partent. Sont entrepreneurs à leur façon, puisque c'est des professions libérales et il y avait quand même le cabinet à faire tourner. Et Dieu sait que c'est souvent difficile.
Ouais.
Mais en tout cas, pas dans le sens entrepreneurial tel qu'on l'entend ici entre nous.
Comment t'es venu la fibre entrepreneuriale? Quand est-ce que t'as voulu entreprendre?
Très sincèrement, en fait, déjà, je me suis jamais posé la question.
Ouais.
Je crois que c'est inné, mais au sens, je suis très curieux. J'ai besoin de comprendre le monde qui m'entoure et j'ai besoin d'essayer d'apporter des solutions aux problèmes que je vois. Je me suis surpris, finalement, dans le cadre de mes études. J'ai commencé par un DUT informatique. J'ai commencé à vouloir monter des petits projets. Et donc, on a monté des projets étudiants. J'avais besoin de créer, de bâtir quelque chose. Et voilà, de fil en aiguille, un projet, deux projets, trois projets. Finalement, j'ai fait mes armes pendant les études.
Ouais.
Ça rendait dingue complètement mes professeurs, parce que il s'avère que je continue à avoir des plutôt très bonnes notes en étant littéralement jamais là, parce que je passais mon temps à bâtir des choses. Les professeurs étaient persuadés que je faisais juste la fête ou autre. En fait, non, j'étais vraiment habité par cette volonté d'apprendre sur le terrain et pas que dans les bouquins sur... Alors, ça paraît complètement anecdotique aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'un business plan? Qu'est-ce que ça veut dire embaucher des salariés? Il y a des charges associées. Du coup, ça nous pousse à nous poser la question du business model. Donc, comment est-ce qu'on vit? En fait, comment est-ce qu'on peut développer les choses? Enfin, des questions qui sonnent complètement...
Dans le monde aujourd'hui.
Complètement basiques. Mais quand vous êtes un jeune étudiant qui découvre la vie, finalement, c'est nouveau. Et finalement, ma meilleure école, ça a été quand même l'école du terrain.
Ouais.
J'ai mis à profit ces 5 années d'études. J'ai un diplôme de contrôleur de gestion, un master 2 de contrôleur de gestion. Et évidemment, je n'ai jamais été contrôleur de gestion de ma vie. Mais en tout cas, j'ai mis à profit ces 5 années d'études pour apprendre. Et c'est, je pense, une des clés de la première réussite, puisque à la sortie des études, avec mes associés, on a fondé la première boîte qui s'appelle Tids.
Avant que tu nous parles de Tids, t'avais une idée quand t'étais jeune, quand t'étais étudiant, qu'est-ce que j'allais faire plus tard? C'est une question que tu t'étais posée?
Je me suis posé la question en terminale, parce que c'est souvent la question qu'on se pose, hein, c'est qu'est-ce qu'on va faire après la terminale? Parcours très scientifique, plutôt un bon niveau. Et du coup, je n'ai pas eu la réponse à cette question. Et donc, du coup, j'ai repoussé l'échéance de cette question en partant faire, comme pas mal de monde dans le domaine scientifique, un parcours en prépa maths-sup, maths-spé.
Donc finalement, tu t'es pas réveillé un matin en disant « je veux être entrepreneur », ça se fait comme ça sur le terrain.
Ça se fait comme ça sur le terrain, exactement.
Tu peux nous parler de Tids alors, ta première boîte?
En fait, on a avec mes associés, on est partis à trois dans cette aventure. On s'est attaqué à une industrie du monde de la publicité. On est en 2009-2010. C'est l'avènement de la DSL Et qui dit avènement de la DSL dit avènement de la vidéo sur Internet. Voilà. Donc enfin, les flux commencent à être plus puissants, les bandes passantes commencent à être plus puissantes. Donc enfin, il commence à y avoir des réussites folles comme YouTube, Dailymotion, etc. Et donc, qui dit vidéo, dit vidéo publicitaire, puisque finalement, ces contenus-là, il faut les monétiser. Et donc, le marché de la publicité vidéo à partir de 2009-2010, du fait de l'avènement de la DSL, a commencé à prendre fortement pour faire finalement écho au monde de la publicité à la télé. Tout le monde s'est engouffré dans le monde de la vidéo publicitaire sur la monétisation des flux vidéo. Voilà, donc on a tous trop subi, d'ailleurs, avant de lancer une vidéo, je me tape une pub, ou parfois au milieu de la vidéo, et même parfois à la fin de la vidéo, bref, la créativité n'a pas de limite. Il y a eu des levées de fonds phénoménales d'acteurs américains pour vraiment essayer de préempter ce marché naissant, mais ô combien, avec un potentiel incroyable. Et nous, on a décidé de prendre la tangente, totalement. Donc déjà, dès le démarrage, on s'est dit, mais... tout le monde est en train de s'engouffrer sur un secteur. Et finalement, les grands perdants de cette opportunité, finalement, c'est les éditeurs de sites web qui produisent du contenu qui n'est pas vidéo. Or, une vidéo publicitaire, elle rapporte plus qu'une bannière classique aux éditeurs de sites web. Et c'est là où on s'est dit, mais et si on essayait de monétiser du contenu qui n'était pas vidéo avec de la vidéo publicitaire. Et c'est comme ça qu'est venue progressivement l'idée. On a itéré, hein. Le premier format n'était pas le bon, le publicitaire qu'on a développé, mais le deuxième a été le bon, celui sur lequel, encore aujourd'hui, 13 ans après, Tids fait tout son chiffre d'affaires. C'est un format publicitaire qu'on appelle InRead, où on met une vidéo publicitaire entre deux paragraphes d'un article de presse.
D'une page.
On a fait le tour de tous les éditeurs français, qu'on connaît tous, hein, Le Monde, Figaro, L'Équipe, L'Express... Tous ont vu ça comme une extraordinaire opportunité de mieux monétiser leur contenu presse. Voyant ce succès immédiat, hein, dans le monde entrepreneurial, on parle beaucoup du 0 to 1. Donc vraiment, finalement, trouver le product market fit. Donc le bon produit avec la bonne cible, le bon marché. Ce fameux moment magique où en fait vous passez votre vie à prendre que des portes, que des noms. Ou les quelques oui que vous arrivez à accrocher de la part de vos prospects, c'est vraiment à l'arraché. À une situation où littéralement, on vous appelle pour prendre votre solution. Je reconnais qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai eu la chance de vivre deux fois le moment du product market fit. C'est un moment extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que on sent qu'il y a un côté, il y a un avant et un après. Ça y est, on va pouvoir enfin commencer à se développer vraiment, fini les galères, entre guillemets. Enfin, ou tout de moins, fini ces galères-là. Après, évidemment, il y a plein d'autres galères, hein. Mais voilà. Et ça a cartonné en France et on a voulu développer le modèle à l'international, sauf qu'on n'avait pas un sou. On était rentable, hein, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas se permettre de ne pas être rentable, mais pour autant, on n'avait pas les moyens de se développer massivement à l'international. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un réseau de représentants commerciaux freelance pour essayer de répliquer le modèle partout dans le monde. On est sorti sans aucun moyen dans 8 ou 9 pays de mémoire, dont les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, enfin, tous ces pays occidentaux. Et sans ouvrir de filiale, et on a re-signé les équivalents du monde du Figaro, donc le New York Times, Daily Telegraph, etc. Et là, ça a remarché. Et assez vite, et finalement, je sens que ça va devenir un mode de vie entrepreneuriale. Un an après, se pose la question du coup d'après, parce que pour être très clair, nous, ce qu'on donnait aux éditeurs, la technologie leur permettant de monétiser les espaces qu'on crée, les espaces publicitaires qu'on crée. Mais ce n'est pas nous qui vendions la publicité. Donc en fait, nous, on a créé l'emplacement et on a créé ce qu'on appelle un inventaire monétisable, complètement colossal. Mais sauf que les régies publicitaires des éditeurs du Monde, du Figaro, etc. avaient peut-être 30-40 produits à vendre. Nous, on n'était qu'un produit parmi les 30-40. Donc les tuyaux n'étaient jamais remplis. Donc, il y avait un potentiel monstre qui a été créé, littéralement, parce qu'on a créé un nouvel emplacement publicitaire stratégique dans lequel on peut insérer un contenu vidéo hautement rémunérateur, mais personne ne le vendait. Et c'est là où on a fait le choix de se rapprocher d'une régie publicitaire externe qui était déjà implantée dans plusieurs pays, qui s'appelait eBuzzing, dirigée par Pierre Chappaz, un des pionniers du web, puisqu'il avait cofondé Quelcoût, un comparateur de prix qui avait été revendu à Yahoo. Donc, c'était vraiment... une première vraie success story dans le monde de l'Internet Et il est en train de refaire une belle aventure avec eBuzzing. Et là, on s'est mariés. Et on s'est dit, c'est facile. S'ils apportent une technologie révolutionnaire, un vrai réseau d'éditeurs ultra prestigieux de presse, et charge aux équipes d'eBuzzing de vendre tout ce contenu-là, puisque manifestement, nos clients n'y arrivent pas tout seuls. Et là, on a parlé du 0-to-1, mais là, après, il y a une deuxième équation qui arrive souvent dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout quand il y a des mariages entre sociétés, c'est le fameux 1 plus 1 égale 3. Là, ce 1 plus 1 égale 3.
C'est là où la courbe...
Là aussi, je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux, parce que ça fait deux fois aussi que j'ai vécu le 1 plus 1 égale 3.
Dire, on va en reparler après pour soi.
Et là, en fait, quand vraiment le mariage est bien senti, quand il y a un maximum de synergie à aller chercher, c'est-à-dire vraiment que finalement, que les actifs sont vraiment complémentaires, en fait, ça peut que donner un truc absolument génial. Ou tout du moins, ça, les conditions de base sont là pour créer quelque chose d'absolument génial. Et à partir de ce moment-là, on a fusionné avec eBuzzing en 2014. Alors, c'était marrant parce qu'ils étaient plus gros que nous. Mais on a préservé le nom de marque Tids parce que c'était vraiment la marque un peu phare qui sonnait à la fois technologie et premium. Là où eBuzzing était plus sur des sites plus bas de gamme, j'ai envie de dire. Et à partir de là, ça y est, c'est parti, la folle aventure a démarré. On a continué à ouvrir des pays. En 4 ans, on est monté jusqu'à 600 employés.
De 0 à 600 en 4 ans.
Coup, on était, oui, au moment de la fusion, on était 150. Après, on a fait 600 et on est passé à 300 millions de chiffre d'affaires et une bonne profitabilité. Voilà.
Une belle première histoire.
Ouais, c'est ça. Belle première histoire.
Pourquoi tu en sors ?
J'en sors 3 mois avant la vente. On était en process de vente. On a décidé de vendre pour plusieurs raisons. Déjà, eBuzzing avait des actionnaires historiques qui commençaient à pousser pour commencer à sortir parce que ça faisait 10 ans, eux, qu'ils y étaient. Donc, ça commençait à faire un peu long. Et en plus de ça, il y avait quand même deux grands méchants loups dans le monde de la publicité. Là, je vous parle en 2016-2017. C'est Google et Facebook à l'époque, Meta aujourd'hui, qui préemptaient 92% du marché de la publicité en mobile et 86 ou 7% la publicité digitale de manière générale. Et on avait beaucoup de signaux qui nous laissaient penser qu'ils allaient venir vraiment sur notre marché et nous préempter. Et on s'est dit qu'on allait essayer de s'associer avec un acteur pour essayer de peser plus, parce que même si on réalisait 300 millions de chiffres d'affaires, c'est évidemment une goutte d'eau par rapport au monstre. Donc on a voulu s'armer un peu plus et on s'est dit que c'était le bon moment de vendre. Ça permettait aussi finalement de cranter un premier succès d'un point de vue entrepreneurial, parce que j'étais jeune, j'ai 30 ans. Je suis encore jeune, mais j'ai 30 ans. Voilà, un premier succès à 30 ans sur lequel j'essaierai de capitaliser ensuite pour refaire quelque chose, si possible encore plus grand.
Tu avais déjà ça en tête au moment où tu vendais ?
Ah oui, complètement.
Parce que j'allais te dire, mais dans quel état d'esprit tu es quand tu fondes, t'as un premier projet qui marche, tu te dis vaut mieux vendre pour la pérennité.
Ouais.
T'as pas eu des inquiétudes, là, des doutes
non,
en disant...
Non, parce que dès l'instant, et ça c'est quand même quelque chose que je constate, c'est un peu un fil rouge dans ma vie, c'est dès l'instant où j'ai la sensation sincère en moi que c'est la bonne décision, en fait, c'est la bonne décision. Donc, la question ne se pose pas, en fait. Et donc, il y avait cette vraie conviction que c'était le bon moment et que j'avais complètement l'énergie pour refaire quelque chose, capitaliser sur cette première aventure parce que j'étais first-time entrepreneur. Donc, mécaniquement, tout ce que je vivais en permanence était nouveau. Puisque vu qu'on était en bonne croissance, tout le temps, chaque fois qu'on faisait quelque chose, c'était nouveau pour moi. Et donc, c'est quand même ce qu'on appelle la non-expérience. Hein. Mis bout à bout, ça, au bout de 6-7 ans, ça commence à faire une vraie expérience sur laquelle capitaliser pour repartir sur une aventure. Quoi.
Tu sors. Combien de temps se passe là, entre ta sortie et l'idée ?
Rien n'a été subi. C'est-à-dire qu'on décide de vendre un an avant la vente effective. Donc évidemment, quand on décide de vendre, en un instant de raison, je commence à me poser la question si j'ai envie de rester ou pas. Assez rapidement, je comprends que je ne veux pas faire du service après-vente. Et donc, je suis très content, on va faire une première sortie, c'est très bien, mais je ne suis pas animé par de l'earn-out. je suis animé par continuer à apprendre, à faire des belles choses et pouvoir agir sans, avec le moins de contraintes possible. Et j'estimais qu'une vente allait ajouter suffisamment de contraintes qui m'empêcheraient de continuer à aimer ce que j'aime faire au quotidien. Voilà, donc je commence à réfléchir à l'aventure d'après. Là, on est en courant été 2016. Octobre 2016, j'annonce que moi, je ne ferai pas le
sortir.
Voilà, je décide de sortir. Et là, tout se fait vite, tout se fait hyper vite. J'avais quand même une première idée de base, qui était de faire une plateforme de commandes groupées pour faciliter la pause déjeuner des collaborateurs.
Comment tu l'avais vu, ce sujet-là?
Bah, en étant tout simplement chez Tids, on allait tout le temps dans le même salade bar. Tout le temps, il y avait un quart d'heure de queue. Tout le monde commande systématiquement les mêmes choses. Et je trouvais que c'était anormal qu'en 2016-2017, le monde de la restauration ne soit pas plus digitalisé. On s'est dit, Deliveroo, Uber Eats, c'est bien simple, ils font de la livraison, mais c'est essentiellement pour le soir et le week-end. Mais qui s'occupe des collaborateurs pour la pause déjeuner? On se fait pas livrer en général, parce que déjà, il y a des délais d'attente, etc. On va souvent chercher à emporter. Et donc, je me suis dit, faisons un système qui permet aux collaborateurs de précommander. Et plus on est nombreux à commander, plus on a accès à de la réduction. Donc, en fait, on est attiré par la réduction. Ça pouvait aller jusqu'à 15-20% de réduction, si on était 4 ou 5. Ça permet aux collaborateurs de déjeuner ensemble. Donc ça, les employeurs adoraient l'idée. Ça permet aux restaurateurs de simplement avoir à gérer la préparation et plus à faire l'encaissement, parce que c'est du paiement en ligne, et plus à faire la prise de commande, puisque c'est fait en amont par les collaborateurs. Voilà. Donc en fait, on a vraiment essayé d'aligner les intérêts entre les collaborateurs qui vont déjeuner, les employeurs et les restaurateurs. Alors ça, sur le papier, c'était magnifique. Une levée de 2,5 millions sur un PowerPoint, d'accord, littéralement. La magie du PowerPoint fait effet.
Probablement la première expérience.
Non, évidemment.
Tid.
Évidemment. Évidemment. Évidemment, puisque je suis tout bêtement allé voir Marie Eklund, qui venait de monter le fonds Daphne et qui, à l'époque, était notre première investisseuse chez Tid. Très rapidement, elle décide de me suivre. Et on lève 2,5 millions pour se lancer, quoi, sur ce PowerPoint. Sauf que, littéralement, donc là, je me dépêche, parce que je suis solo founder, je pars seul, cette fois-ci, dans l'aventure, et j'avais bien, bien conscience que c'est tout le temps le terrain qui vous donne la clé. Donc, il fallait très, très vite que j'aille sur le terrain, de manière concrète, pour confronter ce PowerPoint, finalement, à la vraie vie, quoi. Chez Tease, notre format star nous a été amené sur un plateau l'idée par un client, juste parce qu'on cherche à comprendre vraiment quel est le problème, comment est-ce qu'on peut les aider, et c'est à force de discussion qu'on trouve la bonne solution. Pour Swile, j'ai voulu faire exactement la même chose, donc j'ai pris très vite, avec ces 2,5 millions, quelques freelances. Au bout de 3 semaines, j'ai une première maquette à montrer. Je prends mon baluchon avec Chabi, notre premier employé, qui est encore là aujourd'hui. Et on va voir ce fameux salad bar où j'attendais depuis plusieurs années, tous les midis. Donc, je lui pitche le concept et il me dit, mais c'est magnifique. Je comprends bien la proposition de valeur. Effectivement, je vais gagner du temps. Mais juste une question. Est-ce que les collaborateurs vont pouvoir payer en ticket restaurant? Ce à quoi je réponds, non, mais regarde, là, il y a Deliveroo, Uber Eats qui se lancent. Les gens, ils payent en digital. On est en 2017. Ça y est, les gens payent en digital, quoi, en carte. C'est normal, il n'y a plus de papier. Il me dit, oui, mais moi, 70% de mon chiffre, il est fait en ticket restaurant. Et là, il va derrière sa caisse, il me sort une pile de papier, et il me dit, plus de 90%, c'est du papier. Donc là, je reviens sur mon concept de product market fit.
Oui, donc là, t'en as pas.
C'est ça. Une plateforme digitale d'un côté, et des gens qui veulent payer en papier de l'autre.
Non.
Ça fait mal, hein, quand tu te le prends. Surtout que là, c'est pas du storytelling, c'était littéralement le premier rendez-vous qu'on faisait, d'accord? Puisque c'était là où j'avais le pain point de base. Donc là, j'avais déjà levé 2,5 millions et je me rends compte qu'on a un énorme bloqueur, quoi. Comme tout le monde, je connaissais les tickets restaurants pour en avoir eu dans la poche, mais d'un point de vue entrepreneur, pas du tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà, première question, on est en 2017, comment ça se fait que 95% du marché sont encore en papier? Je suis comme tout le monde, hein, je vais sur Google, je cherche, je vois qu'il y a une loi qui passe en 2014 autorisant la dématérialisation des titres restaurants papier en carte. 2014, 2015, 2016, 4 ans, En 4 ans, il ne s'est
rien
passé.
Personne n'y est jamais allé.
Qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, pareil, on continue. Je commence à passer quelques coups de fil, etc. On est bien aidé. On continue à creuser. Et là, on se rend compte que c'est un marché tenu par un oligopole. Les parts de marché n'ont pas évolué depuis des décennies. C'est un marché vieux de 55 ans. Et manifestement, tout est fait pour que la démat ne prenne pas, quoi, en fait. Hein. Et du coup, on se dit, mais en fait, c'est ça l'opportunité. C'est pas normal. On va s'attaquer à quelque chose qui est pas normal. On n'a pas encore toutes les clés de comprendre pourquoi est-ce que c'est pas normal. Mais ce qui est sûr, c'est juste d'un point de vue employé, c'est pas possible d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Et donc, premier conseil d'administration qu'on tient, post-levé, j'arrive et je dis, en fait, on va pivoter.
On a un problème de
base. Je vous explique. On va aller faire des tickets restaurants. Donc là, évidemment, il y avait à la fois des sourires amusés et effrayés. Hein, c'était un mix des deux, parce que ça faisait quand même partie du jeu. Mais je pense que personne ne s'attendait à ce que ça arrive aussi vite, puisque littéralement, 3 semaines après avoir levé, on était déjà sur ce premier pivot. On décide d'y aller plein de balles. On prend 1 an pour, du coup, une fois qu'on se dit qu'il faut le faire, il faut le faire. Hein. Donc, c'est quoi le monde du paiement? C'est quoi le monde des cartes bancaires? On découvre tout. Et ça, c'est très marrant, parce que c'est aussi un autre parallèle avec Tids. C'est que, au même titre que je connaissais strictement rien au marché de la publicité digitale, quand on s'est lancé, là, le monde des tickets restaurants, on connaissait strictement rien. Le monde du paiement, on connaissait strictement rien. Et c'est ça qui est en fait une force. Parce que c'est cette forme de non-expertise,
de pouvoir poser des questions.
Vu que vous n'avez pas la connaissance,
tu peux te poser toutes les questions que tu veux.
Surtout, vous n'êtes pas limité, en fait. Mmh. Vous n'avez aucune limite, puisque vous découvrez les problèmes au fur et à mesure qui se posent. Alors qu'un vrai expert, il a tellement une connaissance parfaite du système et de tous les problèmes qu'il y a, il se fait complètement omnubilé. Il est complètement omnubilé par ça et du coup, il devient terrorisé. Et on le dit toujours, quand on veut résoudre un problème, il faut le saucissonner en sous-problème et c'est comme ça que vous y arrivez. Et bien, le simple fait de ne pas avoir la connaissance de manière naturelle nous pousse à prendre le problème au fur et à mesure qu'il vienne. Vu que vous ne voyez pas la montagne à quel point elle est haute, vous continuez à grimper et puis ça se passe. Et puis, à un moment donné, vous arrivez en haut et vous êtes arrivé en haut, quoi. Alors, c'était difficile. Mais au moins, vous l'avez fait parce que vous y êtes allé étape par étape. Et par 2 fois, j'ai pu constater que cette absence totale de connaissance de l'industrie dans laquelle on s'attaquait a été là aussi une clé du succès. Donc cette force de côté naturel et de non-connaissance quand vous démarrez, en fait, c'est une force incommensurable. Après, ça ne veut pas dire que quand vous vous développez, il ne faut pas s'entourer. Il faut être pragmatique. Que le CEO et quelques personnes n'y connaissent rien, c'est OK. Mais qu'ensuite, c'est sûr que quand vous allez commencer à attaquer des clients, c'est quand même plus simple de bâtir une équipe commerciale qui est déjà dans le secteur et qui a un carnet d'adresses à activer, etc. Là, il ne faut pas partir de zéro. Mais je parle en connaissance intrinsèque pour bâtir une proposition de valeur qui change la donne.
Je trouve que la phrase que tu viens de dire, finalement, c'est OK qu'un CEO ne comprenne rien au sujet du moment qu'il a les bonnes personnes en dessous qui les comprennent. Tu vois, certaines de mes discussions avec d'autres dirigeants sur, finalement, la nécessité de s'entourer des bonnes personnes et que, effectivement, c'était OK qu'un dirigeant soit capable de dire, là, je suis pas expert, par contre, je me suis entouré, que c'était finalement ça qui était la qualité d'un leader, quoi, de savoir s'entourer de gens qui étaient peut-être meilleurs que lui sur tous les sujets, vu qu'on ne peut pas savoir tout faire. Tu rejoins ça?
Alors, je pense qu'un bon CEO, il porte quand même une vision. Donc, il faut quand même qu'il ait cette fibre business pour comprendre le client. J'essaie de mettre en lumière le fait que de ne pas être expert du domaine faisait qu'on pouvait plus facilement naviguer parce qu'on s'auto... On s'interdisait rien, il n'y a pas de contraintes. Et que ça, c'était une force intrinsèque. Voilà, donc ce leader-là, il doit avoir cette capacité à proposer quelque chose de différent au marché. À partir de là, si vous êtes suffisamment convaincant dans cette vision-là, évidemment que votre première obsession, c'est ensuite de bien vous entourer, parce que là, pour le coup, quand il va falloir aller faire la croissance, heureusement que vous allez prendre le meilleur directeur commercial possible, si possible, qui est expert, lui, pour le coup, dans cette industrie-là, parce que là, vous n'avez pas de temps à perdre après, hein. Que vous allez recruter les meilleurs talents qui vont. Mais oui, évidemment, de toute façon, une réussite de boîte n'est qu'une réussite collective. Ça, c'est la base de base de base. Et la qualité d'un leader, c'est de savoir bien s'entourer. Il y a de la vision, il y a bien s'entourer.
C'est déjà pas mal. C'est ce que tu as fait, du coup? À quel moment ça part, la soirée? Tu vois, si on en revient...
Comme tease, en fait, là, pour le coup, on se prend l'uppercut au premier rendez-vous. On met un an pour développer la solution. Et on a tapé dans le mille direct. Parce qu'on avait bien senti que c'était pas normal. Les concurrents, jusqu'à présent, proposaient des cartes. Hein, mais c'était des cartes qui marchaient pas. Pourquoi? Parce que c'était dans le monde du paiement, il y a deux mondes qui s'opposent. Il y a le monde ouvert, Visa, Mastercard. Et il y a le monde fermé. L'acteur le plus iconique du monde fermé, c'est American Express, Amex. Dans le monde ouvert, dès l'instant où vous avez de l'argent sur votre compte ou dès l'instant où vous payez 10 euros, ça va passer. Dans le monde fermé, il faut impérativement que le marchand mette à jour son terminal de paiement pour que la carte passe. Donc même si vous avez 1 million d'euros sur votre compte et vous voulez faire un paiement de 10 euros, si cette update n'est pas faite, ça ne passera pas. Les acteurs historiques des tickets restaurants ont décidé de lancer une carte à réseau fermé. Donc c'est quand même compliqué de demander à un réseau de 220 000 restaurateurs de mettre à jour tous leurs terminaux de paiement. Les cartes, il y en avait très peu en circulation. Leur demander de mettre à jour les terminaux de paiement, c'est compliqué. Donc ce qui s'est passé, c'est que les émetteurs historiques ont commencé à vendre des cartes à réseau fermé à certains clients. Les employés se sont retrouvés avec des cartes à réseau fermé. Je tente de payer une première fois, ça marche pas. Je tente de payer une deuxième fois dans un autre resto, ça marche pas. Une troisième fois, ça marche pas. Quatrième, je le mets à la poubelle, je dis rendez-moi le papier. Et nous, on arrive avec une carte à réseau ouvert. Et ça a débridé tout le sujet.
Mais comment t'as pas eu le problème de l'œuf et de la poule? Enfin, comment t'as craqué ça? Parce que toi, ok, t'as les employés, ils ont une carte, mais si les marchands l'acceptent pas?
On a eu un problème d'œuf et de la poule, évidemment. Parce que dire, mais du coup, pourquoi les gens n'ont pas lancé une carte à réseau ouvert avant? Il faut savoir que l'avantage du réseau fermé, c'est que ça vous permet de prendre une commission au moment de la transaction. Admettons, je prends un exemple tout bête, je prends 10% de commission. Un employé paye 10 euros. L'émetteur prend 10% de commission. Donc sur le terminal de paiement, il y a marqué 10 euros. Donc moi, je suis bien débité en tant que consommateur de 10 euros. Et le restaurateur, lui, ne perçoit que 9 euros. Et il y a 1 euro qui part automatiquement sur le compte de l'émetteur. Donc ça évite à l'émetteur d'avoir à faire du recouvrement auprès des restaurateurs. Le réseau ouvert, quand je paye 10 euros, le restaurateur reçoit 10 euros. Et c'est charge à l'émetteur de faire son recouvrement tous les 15 jours ou en fin de mois auprès du restaurateur. Donc votre carte, par défaut, elle fonctionne. Et nous, on a pris le pari fou de dire, écoutez, c'est bien simple, on a les chiffres, regardez, en moyenne, un titre restaurant papier prend environ 7% sur des petits commerçants indépendants de commission. Nous, c'est bien simple, on a une tarification simple, c'est 3,5%. On est là pour diviser par deux votre facture de titre restaurant. Est-ce que vous acceptez le deal? Oui ou non? Donc oui, on a une carte qui fonctionne, mais on ne vit pas d'amour d'eau fraîche, vous non plus, hein, vous savez ce que c'est que gérer un business. Allions-nous pour réduire le coût. Et tous les marchands ont commencé à signer pour nous aider. Et c'est même mieux que ça, ils nous donnaient des piles de papier, parce que sur les piles de papier, il y a les noms des sociétés, pour qu'on aille démarcher, pour qu'on aille transformer les clients papier en clients carte. Le même employé qui, tous les jours, dépense avec son papier, s'il se met à dépenser avec une carte Swipe, ça coûte deux fois moins cher au restaurant. Donc c'est comme ça qu'on a aligné les intérêts. Alors évidemment, au début, on avait très peu de contrats. Et puis petit à petit, on a commencé à avoir des milliers, puis des dizaines de milliers de contrats. On a une super équipe dédiée à l'affiliation à Montpellier qui a fait un boulot fantastique. Et on a bâti un réseau de marchands affiliés en 6 ans de temps, quasiment complet. À base de la réussite de Swile, c'était ce pari fou de dire « Nous allons réussir à contractualiser des marchands avec une carte réseau ouvert ».
Donc, tu as créé ta base de marchands. Et là, côté entreprise, ça a pris comment?
Ça a pris super bien, puisque pour le coup, on a pris le marché en mettant une attention très particulière sur les employés. Jusqu'à présent, avant notre arrivée, l'important, c'était donné aux décideurs, puisque c'est eux qui, finalement, donnaient les budgets de tickets restaurants. Mais in fine, moi, en tant qu'utilisateur final, j'étais un peu déconsidéré. Et les premières cartes que je recevais, c'était soit une carte avec une pastèque dessus, soit avec un poulet rôti dessus, ou un couteau, une fourchette dessus. Et nous, on a vraiment adopté tous les codes néobanques purs. Et là, notre première décision a été de mettre une belle carte noire, un peu premium, dans les mains de tous les collaborateurs. pour que finalement l'employé ait l'impression de recevoir un cadeau de la part de son entreprise.
L'expérience collaborateur. Ouais.
L'expérience collaborateur. Et on a poussé les curseurs jusqu'au bout. Le packaging de base, quand vous recevez la carte, c'est pas une enveloppe avec une carte collée avec un bout de colle dessus, quoi. C'est une vraie expérience de A à Z où on montre une chose, c'est qu'on prend soin des employés. On avait l'ambition, on a encore l'ambition de devenir ce label, de dire, mais en fait, si moi, employeur, je choisis Swile, c'est parce que j'ai compris ce que je voulais offrir aux employés. Et si moi, employé, je reçois Swile, c'est que je comprends que je suis dans la bonne boîte.
Ouais, ça devient un élément de marque employeur.
Exactement. Et voilà, et on a poussé le bouchon jusqu'au bout sur ce sujet.
Si on parle de chiffres aujourd'hui, ton réseau de marchands, en termes de couverture, enfin globalement, les grandes statistiques de Swile aujourd'hui.
Bah, du coup, on va dire que jusqu'à l'année dernière, on est monté jusqu'à 70% de taux de couverture côté marchand, ce qui est énorme. On était en relation contractuelle avec un marchand. Et là, on a fait un deal stratégique avec BPCE. On a racheté leur filiale historique qui opérait sur les titres restaurants, les titres cadeaux, les avantages salariés. Il s'appelle Bimpli. Bimpli est un des fameux quatre acteurs historiques. Et BPCE a en contrepartie pris 22% de Swile. Ce deal, il est incroyable dans le sens où, évidemment, ça fait un peu écho à ce qu'on avait fait avec Tids et eBuzzing, finalement. Un deal où le 1 plus 1 égale 3 fonctionne parfaitement. Sur le réseau de marchands, eux, ils avaient déjà 100% de taux de couverture. Donc évidemment, en se mettant ensemble, tout le volume que nous on génère, on arrive à le mettre sur 100% du coup désormais des marchands. On était très fort sur les petits et moyens comptes, là où Bimpli était très fort sur la partie grands comptes et marché public. Donc ensemble, on devenait leader du marché des titres restaurants en France. Aujourd'hui, Swile gère 3,2 milliards d'euros de volume de titres restaurants en France, sur un marché à 8,9 milliards. Donc on devient un acteur leader.
Ouais.
Tout seul comme des grands, j'ai envie de dire. Les premières années, on avait réussi à capter quasiment 15% de parts de marché. Et on s'est allié avec un acteur encore plus gros que nous. Et ça nous a permis de devenir leader. Cette année, on devrait atteindre les 200 millions d'euros d'ARR et les 30 millions d'euros d'EBITDA. Donc c'est la première année de profitabilité du groupe sur une année pleine.
Principalement dû à ce deal.
Ouais.
Donc, dans la limite, j'imagine, de ce que tu peux nous dire, mais à quel moment tu as réfléchi à ce deal-là? Parce que je pense que tu étais en situation de super croissance, tu avais ton objectif de rentabilité, tu avais quand même tes concurrents. À quel moment est-ce que tu t'es dit, un peu comme tu l'avais fait sur Tids, il faut que je me rapproche, il faut que je fasse une opération?
Ouais.
Et est-ce que tu as été en fait proactif dans la recherche de ce deal? Est-ce que c'est une opportunité? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous raconter cette partie-là, quoi?
On a un adage en interne qui est « les pieds sur terre, la tête dans les étoiles ». Donc c'est bien beau d'être ambitieux, mais il ne faut pas perdre pied. On a bénéficié évidemment d'un contexte macroéconomique très favorable pour le développement des scale-up en France. De par le marché qu'on adressait, la croissance qu'on avait, etc., on a réussi à sécuriser quasiment 300 millions d'euros de levée de fonds pour prendre ce marché-là. Évidemment, c'est un marché de volume. Donc en fait, les maths, bon contrôleur de gestion que je n'ai jamais été, ne fonctionne que quand vous avez vraiment un bon volume.
Ouais.
Et un bon taux de couverture côté restaurant. Avant ça, c'est très compliqué de faire marcher les maths. Et j'avais bien conscience que si le contexte macroéconomique venait à changer, on risquait d'être un peu au pied du mur. Donc il fallait jouer le jeu d'hypercroissance parce que en fait, on n'avait pas le choix. C'était la seule façon de rentrer sur ce marché, en fait. Mais tout en sachant très bien que les conditions pouvaient se retourner. Et donc évidemment, on va dire que je lorgnais depuis un certain temps sur Bimpli, parce que je voyais bien que finalement c'était potentiellement le seul actif, si je peux dire ainsi, d'un point de vue financier, potentiellement disponible. Puisque les trois autres acteurs qui opéraient sur le marché étaient des acteurs globaux qui n'avaient évidemment aucune envie de se rapprocher ou d'envisager une quelconque opération capitalistique. Ça a pris longtemps. J'ai été conduit deux fois parce que ce n'était pas le bon moment. Mais la troisième était la bonne. Et il s'avère qu'on s'est tapé dans la main pile au moment où les robinets ont commencé à être fermés. Le fait d'avoir anticipé a grandement aidé parce que pour le coup, je pense que si on avait ouvert les discussions suite à la fermeture des robinets du marché, les portes auraient été fermées. Donc il y a cette forme permanente d'anticipation. Je n'ai pas dit, mais je jouais pas mal aux échecs quand j'étais petit. Et cette obsession du trois coups d'avance, elle est importante.
Quelle est l'ambition là maintenant pour Swail?
Le deal n'a jamais été une fin en soi. Tous les Swailers rigolent suffisamment parce que je leur dis souvent que c'est que le début. Mais sauf que ça fait 7 ans que je leur dis que c'est que le début. Mais parce que le pire, c'est que je le pense vraiment. On a envie de devenir un leader mondial de ce qu'on appelle, nous, en interne, la work tech. On part du principe qu'il y a quand même un truc qui va pas dans le monde du travail. C'est cette fameuse expérience employée, de manière générale, mais peut-être plus spécifiquement d'un point de vue technologique. On va déjà commencer par ça. D'un point de vue technologique, on utilise, en moyenne une vingtaine d'outils dans notre quotidien au travail. Déjà, c'est un premier problème, parce que c'est hyper fragmenté. Et puis, le point commun de toutes ces solutions, c'est que elles sont un peu old school, quoi. On a l'impression de refaire un bond en arrière de 20 ans. Et ça, c'est pas compris par les employés. Parce que nous, dans notre vie privée, on utilise tous les outils dernier cri, limite trop addictifs, mais en tout cas hyper intuitifs à minima et très modernes. Et dès que je mets un pied dans le monde de l'entreprise, j'ai l'impression de revenir dans les années 2000, quoi. Avec une complexité d'utilisation terrible, une interface moche à souhait, et autant de logins et de mots de passe que vous avez d'applicatifs, quoi. Et on s'est dit que ça, c'était pareil que le papier encore en circulation en 2017. Là, on est encore en 2024. C'est pas normal qu'on en soit là en 2024, alors même qu'il y a des technologies sous nos yeux, quoi. C'est possible. C'est possible. C'est déjà fait, quoi. Donc, regardez dans le monde privé comment ça se passe. Et donc, on s'attaque à ce sujet de l'expérience employée d'un point de vue technologique, ce qu'on appelle la work tech. Et l'avantage, c'est que c'est un marché mondial. Et j'ai appris quelque chose chez Swail que j'avais pas appris chez Tease. La vision, c'est clé, parce que c'est quand même ce qui permet à tous de nous mettre d'accord sur notre projet commun, collectif. Est-ce qu'on est d'accord sur notre projet global ou pas? Est-ce qu'on est d'accord sur le niveau d'ambition? Parce qu'évidemment, le niveau d'ambition a un impact ensuite sur notre quotidien et la manière dont on va opérer au quotidien. C'est une évidence. Donc, il faut être d'accord sur la vision, mais que le chemin vers cette vision est tout aussi important. Et là, on veut vraiment y aller étape par étape et faire une première bonne étape nickel. Pour au plus cette première étape est forte, au plus on pourra faire la deuxième étape avec ambition. Et finalement, ça crée cet effet de boule de neige qui fait qu'on arrive à notre objectif final d'être leader mondial de la WorkTech. On n'a pas envie de s'éparpiller, on a envie de prendre les choses une à une et de les faire bien, correctement, à succès.
Je suis d'accord avec toi. Moi, pendant que tu disais, là, je réfléchissais. C'est un des sujets là, qu'on a en interne. Nous, on est en pleine transformation et notamment ce sujet de le nombre d'outils qu'on utilise entre le RP, les temps, le SIRH, les outils de production.
Les notes de frais, le voyage d'affaires, les avantages salariés, vous en avez
pour
plusieurs.
CRM, et à chaque fois, c'est vrai que t'en rajoutes. Quoi. Et c'est vrai qu'avoir un outil dans lequel tu fais tout, ce serait super puissant. Mais du coup, ça peut t'amener, toi, sur des sujets qui sont là, pour le coup, infinis. Donc, je comprends bien l'intérêt business et le côté scalable du modèle. Mais c'est hyper vaste. Comment tu fixes du coup les...
Et déjà, la première, là, tu as parlé de CRM. Là, c'est quelque chose qui est hors de notre scope. Parce que là, nous, on parle vraiment de...
L'expérience employée.
Voilà, de ma vie personnelle en entreprise. Donc, vraiment, tous les enjeux administratifs, d'avantages salariaux, voyages d'affaires, notes de frais, mais pas du tout les outils collaboratifs. Ça, c'est encore autre chose. Mais déjà, rien que ça, là, ce qu'on se dit, ça, c'est déjà une quinzaine ou vingtaine d'outils. Ça mérite quand même, franchement, d'être simplifié. Et ça, c'est déjà suffisamment ambitieux. C'est suffisamment profond pour qu'on continue sur cet axe-là pendant 30 ans.
Donc, ta promesse, finalement, c'est d'améliorer constamment l'expérience collaborateur dans les entreprises.
Exactement.
C'est c'est un bon résumé.
Exactement.
Quand je pense à tout ce qu'on voit, et je crois que tu parles beaucoup du Future of Work, tu as créé un média aussi, non, sur ces, sur ces sujets?
Alors ça, c'est autre chose, mais oui, on a créé un média qui s'appelle The Daily Swail, qui a vocation à essayer d'essayer d'ouvrir les chakras sur le monde du travail et d'essayer de le faire évoluer, parce que on a parlé de l'expérience employée d'un point de vue technologique, mais l'expérience employée d'un point de vue tout court, en fait, est pas bonne. Moi, je pense quand même que le monde du travail est malade.
Ouais, je suis d'accord.
Et qu'il faut aller progressivement, là aussi, étape par étape, vers un changement de paradigme. On n'a pas du tout la prétention à nous seuls de pouvoir changer le monde du travail. En revanche, si on peut être un acteur poussant du plus fort qu'on peut pour essayer d'élever les consciences sur ce problème et essayer de trouver les réponses, on s'en privera pas, ça c'est sûr.
Si on en revient peut-être à toi, à ta personnalité et à ton expérience d'entrepreneur, je ne sais même plus si on peut parler d'expérience, là maintenant ça commence, les années passent. Je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu avais choisi d'être entrepreneur, que ton métier était d'être entrepreneur, mais que c'était avant tout de la stratégie. Être entrepreneur, c'était de la stratégie. Ça m'avait interpellé parce que je pense que tu étais le premier que je rencontrais qui le formalisait de cette façon. J'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui se lançaient, qui disaient « moi j'avais une idée bille en tête, je voulais faire ça ». Mais tu vois, j'ai l'impression que toi, en fait, t'en as fait deux, mais tu pourrais en refaire une troisième demain, t'adopterais la même approche. T'as pas voulu monter ces boîtes, ces produits.
Quoi. Non.
T'as juste voulu entreprendre.
Complètement.
Dans tes interventions, tu parles pas mal des leçons. Et tu l'as théorisé, ce sujet-là ?
Ouais, alors déjà, au sein même de la famille des entrepreneurs, il y a quand même plusieurs catégories, j'ai envie de dire, d'entrepreneurs. Voilà. La première chose, c'est qu'il faut se demander ce qu'on a envie de faire. Se lancer dans l'entrepreneuriat et décider de faire une TPE seul avec moi-même ou avec 4-5 collaborateurs sur un domaine spécifique et être très heureux, et je le souhaite à tout le monde.
Mmh.
En fait, ce qu'il faut, c'est être heureux. Ça paraît bête et méchant, mais il faut juste être en phase avec ce qu'on veut. Et une fois qu'on est en phase avec ce qu'on veut, agir du coup en fonction du coup de notre ambition et de ce qu'on veut en fait. J'ai vu trop d'entrepreneurs, en fait, papillons, on va dire, qui finalement, pris dans cette médiatisation de la French Tech, des licornes, etc., qui se rêvent licornes, mais qui finalement, mécaniquement, ni ne pilotent comme il faudrait faire une licorne, ni en fait, dans le fond, le veulent. Et déjà, remettre le cœur du sujet avant même d'entreprendre, ce qui êtes-vous et qu'est-ce que vous souhaitez faire. Et sachez qu'en fait, faire des TPE, des PME, mais c'est extraordinaire déjà. Ne pensez pas que ne pas faire une licorne est un échec entrepreneurial. Ça paraît peut-être évident là aujourd'hui ce que je dis, mais c'est encore trop l'apanage des étudiants. Alors c'est bien d'être ambitieux, mais il faut y aller étape par étape.
Ouais, je suis pas sûr que ce soit si évident. Je pense que t'as encore beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat pensant qu'ils vont faire une licorne et avec la volonté de associer la célébrité, la richesse, etc. J'ai pas vraiment rencontré d'entrepreneurs qui disent, en fait, si je suis juste indépendant, que j'arrive à gérer mon business, etc.
Je pense que c'est un problème.
Ça me suffit. Tout le monde veut, j'entreprends, c'est pour créer Meta, c'est pour créer Swile, c'est pour créer.
Ouais.
Alors que c'est un métier qui est hyper dur, qui est pas forcément donné à quelqu'un.
Et puis surtout, vous avez beau être l'entrepreneur le plus incroyable de votre génération, si vous attaquez pas le bon marché, vous bâtirez au mieux une TPE ou au mieux une PME, malgré toute votre ambition de bâtir une licorne. Vous êtes limité par votre marché. Donc déjà, il faut attaquer un marché qui s'y prête. Qu'est-ce que je souhaite faire ? Et si d'aventure, vous décidez de faire une licorne, parce que c'est, why not, hein ? Je préconise pas de le mettre en objectif, mais on va dire, si votre ambition est de faire une boîte globale, on va dire différemment, est-ce que vous attaquez un marché global et pas une espèce de fonctionnalité dans un... Voilà, exactement.
Tu pensais global quand tu as créé tes boîtes ?
Oui, parce que là, pour le coup, dans la première question de qu'est-ce que je souhaite, c'est il y a un mot qui revient tout le temps, c'est l'impact. J'ai envie d'avoir l'impact. Alors, pareil, impact, il y a plein de sens au mot impact. Quand moi, à titre personnel, je prononce le mot impact, il y a cette notion globale de volume, d'impact au niveau du nombre de personnes touchées.
Pourquoi ?
Vu que j'aime résoudre les problèmes...
C'est un esprit concurrence et un esprit...
Ah oui, j'aime beaucoup, je suis assez compète.
Ouais.
Et ça, depuis... Et ça, pareil, je pense que c'est inné. Je me revois sur le terrain de foot quand j'avais 6 ans, je veux dire, personne m'avait... J'avais ce trait de caractère de la gagne qui est resté. Donc j'ai la gagne en moi, ça c'est sûr. Et j'aime les gens. Et si j'ai l'impression d'aider les gens, j'ai l'impression de me faire du bien à moi-même. Je suppose que cette volonté d'être entrepreneur et à impact au sens global, je pense que ça vient un peu de là. Cette volonté d'aider les gens, en mouillant le maillot et en y allant, quoi. En allant de l'avant.
Si j'allais voir tes collaborateurs et que je leur demandais travailler avec Loïc, commencer, quel est son style de leadership ?
Déjà, je t'invite à aller les voir, déjà.
Mais tout le monde m'a répondu, m'a dit, tu devrais leur demander.
Donc, voilà. Comme quoi ? Un style de leadership ?
Ouais.
Encore une fois, il y a plusieurs styles de leaders. Là, pour le coup, je pense que il y a deux mots, je pense, hein, si je lis un peu quelques messages que je reçois, enfin, je les lis évidemment, mais j'essaie de résumer les messages que je reçois, c'est plutôt le mot vision et stratège qui remonte. Ce côté.
Toujours penser au coup d'après.
Et je pense que c'est très rassurant.
Pour tes équipes?
Je pense. Ouais. Quand il y a un capitaine qui sait où il va, c'est sympa.
Je pense aussi, honnêtement, et je sais que j'avais fait un interview quand j'ai pris mes fonctions, et je te disais, le journaliste avait titré « Toujours penser au coup d'après ». Effectivement, je pense qu'une des qualités d'un CEO ou d'un leader, c'est d'essayer d'avoir toujours un coup d'avance, ne serait-ce que sur ses concurrents. Tu vois, je suis content que tu m'aies répondu honnêtement sur le côté combattant, parce que c'est pas forcément, surtout en France, d'avouer, de dire « Ouais, j'y vais pour la gagne », etc. T'as pas dû te faire que des amis, je pense. Globalement, tu sais pas.
J'ai une personnalité assez ronde. Donc moi en tout cas j'ai pas trop d'ennemis quoi, j'en ai pas je crois, bon, ça va. Après on trace chacun notre route et puis voilà.
Sur le côté vie pro vie perso, j'imagine quand même que pour avoir créé, enfin participé aux aventures auxquelles t'as participé, t'as dû avoir un agenda assez chargé. Est-ce que t'arrives à te garder des moments pour toi, pour ta famille, pour tes enfants? Est-ce que t'es toujours connecté?
Ouais. J'aime bien quand on dit vie pro, vie privée. Parce que pour moi, la vie perso, en fait, c'est qui je suis et je suis pas indissociable de ma vie pro. Par contre, j'ai une vie privée. Et là, pour le coup, moi, je mets une vraie barrière. Je sais qu'il y en a qui mettent moins de barrières. Moi, c'est privé au sens privé, au sens strict du terme. Déjà, je pense qu'on ne peut pas réussir dans la vie pro si on n'est pas bien dans la vie privée et inversement. Donc, c'est pas parce qu'ils sont séparés qu'ils sont pas liés. C'est pas antinomique. Et pour réussir dans la vie privée, il faut une forme d'équilibre. Ça bouge tellement dans la vie pro. Ça peut pas être le bordel partout, en fait. Hein. Sinon, ça craque de partout. C'est bon. Vie pro, on a compris. C'est le bazar. Alors, c'est le joyeux bazar, mais c'est le bazar quand même. C'est des problèmes du matin au soir à régler, mais positivement, on va dire. Et donc, il faut une forme de stabilité côté vie privée. Et ça, c'est complètement incarné par ma femme, qui a mis de côté sa vie pro, pour le coup, pour le bénéfice de notre équilibre familial. Sans quoi, il y a rien qui tient, en fait. Il y a rien qui tient. Donc, on a trois fabuleux enfants. J'ai une routine. Quand je suis à la maison, à 19h, je suis rentré. Et je dîne avec les enfants et je les couche. Ça, c'est important pour moi. C'est clé. C'est un rituel. Il n'y a rien qui peut passer au-dessus. Et après, je rebosse ensuite. Et le samedi, je vais tout le temps au match de foot avec mon fils. Et ça aussi, ça me fait un bon bol d'air frais. Et voilà, et donc je coupe un peu le week-end, je bosse tout le temps le week-end, mais j'essaie vraiment d'avoir des vrais moments de présence authentique avec les miens.
Je trouve intéressant ta réaction sur vie pro, vie perso, parce que c'est vrai, je pose cette question, et c'est même quelque chose qui m'occupe beaucoup l'esprit, c'est un de nos engagements de mission chez BDO, hein, sur comment est-ce qu'on arrive à gérer ça chez nos collaborateurs. Et c'est vrai que j'ai pas mal évolué en me disant finalement présenter le problème vie pro, vie perso, c'était une mauvaise façon de présenter le sujet. Si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'on a besoin de couper le perso et le pro, donc c'est qu'a priori on n'est pas heureux dans le pro.
Et puis je pense qu'on n'est jamais aussi bon dans le pro que quand on nous demande justement d'être qui on est. Donc, dans dit perso, peut-être que les gens nous connaissent. On n'est pas là pour jouer.
Toi, t'es chez soi, comme t'es dans ta vie privée.
Ouais. Et je pense que c'est une clé importante, notre réussite sociale. C'est parce que du coup, je demande à personne d'être quelqu'un d'autre et j'essaie d'être exemplaire dans le fait que tu peux me voir dans la vie privée, c'est exactement la même chose.
Tu seras le même que quand
t'es au bureau. Ouais, exactement.
Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments dans tes deux aventures entrepreneuriales où t'étais sur le précipice? Hormis ton premier rendez-vous avec ton salade café, mais est-ce que tu as eu des moments où tu étais à court de trésor ou
J'allais te raconter ça, justement. Ouais. Alors, je sais pas comment je vais te le dire simplement. Je me suis retrouvé plusieurs fois au bord du précipice, mais je m'en suis rendu compte que m'en retournant. C'est-à-dire que j'ai jamais eu peur. Plusieurs fois, et chez Tids, et chez Swile. Alors, plusieurs fois, il nous restait moins, pas assez de trésor pour payer les salaires en fin de mois. Trois fois, ça m'arrivait. Donc, on était à J moins, je sais pas moi, 10, 15, 20, j'en sais rien, moins d'un mois, en tout cas, ça c'est sûr. Il n'y a plus de cash, quoi. Mais en fait, vu qu'à chaque fois, j'avais quand même suffisamment anticipé, et je savais que ça allait arriver, j'ai pas vraiment stressé. J'étais confiant sur le fait que c'est bon, ça allait passer, quoi, l'un dans l'autre. Et puis après, effectivement, tu te retournes, tu fais, non, mais quand même, en fait, il suffit quand qu'il y avait juste...
Prêt,
ouais, non, quand même passé près. Donc, c'est la fameuse peur un peu après coup. Pas sur le moment, vraiment, sincèrement. Mais après coup, ouais, non, quand même, la prochaine fois, prends...
Un peu plus de marge.
Ouais, ouais, parce que ça sert à rien, quoi.
Et est-ce que t'as fait des erreurs?
Tout le temps, tout le temps.
Ça fait partie de la vie du dirigeant.
Bah oui, bah oui.
Déjà,
si vous ne faites pas d'erreur, ça veut dire que vous ne faites rien. Hein, c'est la phrase classique, mais elle est tellement vraie, dans le fond. À force de rien, d'avoir peur de tout, bah, vous ne faites plus rien. Donc, voilà. Donc, je préfère mille fois qu'on avance, qu'on fasse des erreurs, qu'on se dise qu'on a fait des erreurs et qu'on essaie de les corriger. Mais il y en a eu, déjà chez Tiz, en fait, ça a été, tout était nouveau. Donc, littéralement, je pense que, je ne sais pas moi, une décision sur deux était mauvaise. Donc la capacité, si vous voulez, à réussir, c'est cette capacité à réagir plutôt qu'à prendre la bonne décision quand vous êtes first-time entrepreneur. Après, quand vous commencez à avoir un peu plus d'expérience, effectivement, le taux d'erreur, on le souhaite en tout cas, baisse, parce que vous commencez quand même à avoir ce qu'on appelle l'expérience.
L'expérience, ouais.
Tout simplement. Mais évidemment, même chez soi, on en a fait et on va continuer à en faire. Et c'est pas grave, en fait, dès l'instant où on continue à avancer et qu'on continue à kiffer ce qu'on fait tous ensemble. C'est OK, en fait, de faire des erreurs, vraiment. Si vous en faites 10 fois d'affilée, là, ça va commencer à poser un problème.
Il y a quand même une limite.
Ouais. Ça, non, c'est-à-dire que vous n'apprenez pas. C'est juste, l'important, c'est comment vous vivez l'erreur. Quoi. Et donc, c'est important d'essayer d'avoir une culture qui permet d'avoir cette sécurité de si je fais une erreur, je ne vais pas me faire taper dessus dès le premier coup. Quoi. Mon équipe ne va pas me le reprocher dès le premier coup. Mon boss ne va pas me le reprocher dès le premier coup. Avoir une culture qui valorise le mouvement plutôt que... la peur d'avancer. Et ça, c'est très, très, très difficile. C'est très facile à dire, comme je suis en train de le faire. Mais alors, qu'est-ce que c'est difficile en interne? Parce que dans la vraie vie, en fait, parce que vous avez peur, c'est tout. Et ça, c'est le vrai boulot du management de proximité, d'arriver à encourager en permanence le mouvement.
Est-ce que t'as des sources d'inspiration, des gens qui t'inspirent?
Je lis beaucoup de bouquins business.
Ouais. Si tu devais en recommander un.
Là, le dernier qui m'avait été largement soufflé par Eric Antera, notre CTPO, c'est un bouquin qui s'appelle The Founder Mentality, qui traite finalement une thèse qui me tient personnellement à cœur, mais qui tient Eric à cœur et bon nombre de soilers à cœur. C'est cette obsession de grandir tout en préservant l'agilité d'une start-up. Et la mentalité des premiers jours. Comment, de manière systémique, on évite de devenir ce qu'on a toujours combattu? C'est très profond comme sujet. Ça mérite un bouquin que j'espère on fera. Mais c'est un vrai combat de vie, ça. Si le monde du travail est malade, aujourd'hui, je pense que c'est très grandement à cause du système. En place. Je ne parle pas du système politique, je parle du système organisationnel.
Dans les entreprises.
Exactement. On subit un système qui est terrible, qui est destructeur, et j'espère que progressivement, ça changera. Quand vous vous lancez dans une boîte, vous êtes une quinzaine, vingtaine de collaborateurs, il y a l'euphorie des débuts, et vous êtes engagé, ça va bien, vous êtes heureux, vous avez l'impression de ne pas subir les contraintes du quotidien. Les contraintes que vous pourriez potentiellement vivre dans des boîtes plus corporate, etc., qui ont tout processisé. Vous êtes vous-même, en fait, et vous avez l'impression d'avoir de l'impact. Et je crois que quand on se lève tous les matins, on a envie d'avoir la sensation d'œuvrer et de grandir intérieurement, et puis de grandir pour les autres et avoir de l'impact, en fait. Peu importe sa forme d'impact, mais avancer, quoi. Et malheureusement, trop souvent, quand les boîtes grandissent, cette sensation d'impact diminue chez les collaborateurs. Et c'est ce qui crée du burn-out, du bore-out, enfin toutes les théories qu'on connaît, soit de l'ennui, soit du burn-out parce que on se crame à vouloir essayer d'avancer les choses et ça avance pas et puis on se crame, etc. Et ça, c'est plus possible.
Et j'ai réussi à le conserver aujourd'hui chez soi.
On a été parfait les 3 premières années, vraiment. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes internes le montrent. On a merdé ensuite, et là on est en train de complètement revenir sur le moment du démarrage. Quoi. Et pareil, on arrive tout à mesurer, on arrive vraiment à comprendre l'engagement des collaborateurs, à quel point ils verbalisent subir ou pas les contraintes au quotidien. Et ça, tu parlais d'accompagner les entrepreneurs. Moi, peu importe l'industrie, je m'en fous. Là, à la limite, ça, oui, ça, ce serait un combat de vie. C'est d'essayer vraiment de bâtir les fondations organisationnelles saines pour bien grandir dans les entreprises. C'est comme ça qu'on va essayer de rendre ce monde du travail plus épanouissant.
Merci beaucoup, Loïc. Très content qu'on ait passé ce moment ensemble.
C'est moi, merci beaucoup.
Je te souhaite le meilleur pour Swile, que ça dure, même si ça dure, et que tu décides un jour d'en sortir, de nous faire une troisième licorne. Mais voilà, encore toutes mes félicitations pour ce que tu as fait. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Loïc.
Salut Arnaud.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.